Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez, la France bouge au service d'un monde qui change et vous êtes au bon endroit pour découvrir des patronnes, des patrons qui se retroussent les manches en ce moment. Ici, c'est simple, on trouve des solutions et elles sont françaises. Ensemble, on en parle avec Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag et bonjour à toutes et à tous. Émission spéciale aujourd'hui sur les vaccins. Tiens, combien on en a vraiment en France? L'Europe a-t-elle raté sa négociation avec les labos? Comment réindustrialiser la France justement en matière pharmaceutique? On en parle jusqu'à 14h avec notre grand témoin du jour, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'industrie, en charge justement de ce dossier des vaccins.
Émission spéciale sur les vaccins et sur les traitements, car on l'oublie parfois, mais il faut aussi apprendre à soigner cette maladie. Et une pépite française est dans la course pour trouver le traitement qui évite les formes graves du Covid. C'est Abivax. Son président sera avec nous dans un instant.
À l'aune de cette crise, des entreprises se sont réinventées. Franprotex s'est mis à fabriquer des masques français pour faire face justement à la concurrence asiatique. Et ce sera notre saga du jour.
Chaque jour, les trophées Europe 1, la France bouge. Un projet défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, Benenota, du linge de salle de bain fabriqué en France. On écoutera ce projet à 13h45.
Et puis demain, un emploi, semaine spéciale en soutien avec les jeunes sur Europe 1. Vers 13h50, on passera un coup de fil chez Tiller là-bas. On recrute 40 jeunes, des commerciaux, des spécialistes de la tech.
Allez, bienvenue dans La France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et bien sûr qu'elle bouge encore, cette France, notamment dans notre production des vaccins pour lutter contre le Covid-19. Alors produire plus pour vacciner plus vite, tel est l'enjeu d'aujourd'hui. Et on va en parler avec notre témoin du jour.
Bonjour Agnès Pannier-Runacher.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes ministre chargé de l'industrie, en charge de la logistique, notamment des vaccins. En France, près de 2 millions de personnes ont reçu au moins une dose du vaccin contre le Covid-19. La campagne est clairement en train de prendre un nouveau souffle, avec notamment les premières doses du vaccin AstraZeneca qui ont été administrées en France ce week-end. Agnès Pannier-Runacher, est-ce que nous sommes enfin sur la bonne voie ?
Oui, nous sommes sur la bonne voie. Nous avons déjà réceptionné 3,6 millions de doses. Nous en réceptionnerons demain un peu plus de 300 000. Donc effectivement, nous vaccinons au fur et à mesure de la réception des doses. Et aujourd'hui, notre défi, c'est le défi de la production. Alors, je veux rappeler que fabriquer un vaccin efficace, et efficace comme sont le Moderna et le Pfizer, au-delà de 90%, c'est déjà de l'ordre de la prouesse technologique,
vu le temps
de recherche et développement et d'industrialisation, parce qu'on n'en fabrique pas des quantités de laboratoire, on en fabrique des millions en Europe, des millions aux États-Unis en particulier. Donc ça, c'est la première étape, mais il faut servir le monde entier. C'est la première fois qu'on vaccine toute la planète, c'est de l'inédit. Et donc ça veut dire que la montée en capacité de production va être un exercice également extrêmement difficile.
Alors justement, Madame la Ministre, beaucoup accusent l'Europe d'avoir été trop timide dans sa politique d'achat. On a été moins agressif, beaucoup moins agressif par exemple que les États-Unis. Quelles leçons vous en tirez aujourd'hui ?
Alors, je crois qu'il faut rétablir d'abord un certain nombre de vérités. La politique d'achat, elle s'est passée à un rythme soutenu et les doses étaient réservées dès cet été, puisque nous avions sécurisé les volumes et les prix dès le mois d'août dernier pour quasiment l'ensemble. La dernière réservation, elle date du 9 septembre. En revanche, nous avons probablement été un peu plus durs en négociation sur certains aspects. Et le dernier aspect...
Ça veut dire quoi, plus dur en négociation ?
Plus dur notamment sur les clauses de responsabilité.
C'est-à-dire ?
Sur le partage de responsabilités entre les laboratoires et les États.
Mais est-ce que vous dites aujourd'hui que vous avez été trop dur d'une certaine manière et
non,
que du coup ça a bloqué notre approvisionnement ?
Je ne crois pas que c'est ce qui a bloqué notre approvisionnement. Et il faut regarder la réalité des fabrications sur les deux continents. Compte tenu de où nous partions en termes de capacité de production, le nombre de doses que nous avons est extrêmement élevé parce que nous n'avons
Donc là,
pas nécessairement
dites, c'est
les mêmes capacités.
Notre désindustrialisation en Europe.
Exactement. Ce que nous payons, et ce que nous payons en particulier en France, c'est 30 ans de désindustrialisation. Je vais vous donner un chiffre. On a divisé par deux notre part de production pharmaceutique entre 2005 et 2015. Donc ça, on le paye très cher. Ce qu'a fait également les États-Unis, qui est un peu particulier, c'est qu'eux se sont engagés dès le moment de la recherche et développement et qu'ils ont financé...
Ils ont joué au poker, en quelque sorte.
Je ne sais pas s'ils ont joué au poker, parce qu'ils l'ont fait pour les besoins du monde entier, pour le coup. Ils ont financé la recherche et développement de manière très anticipée.
Là, ce que vous dites de façon sous-jacente, c'est qu'il aurait fallu que l'Europe donne également des milliards d'euros à Sanofi ou à d'autres laboratoires européens pour réussir plus vite, comme Pfizer, par exemple, aux États-Unis.
Ce que je dis, c'est que nous n'avions pas cet instrument qui s'appelle la BARDA, qui finance l'innovation et finance l'industrialisation.
Qui est un organisme public hein, aux États-Unis, qui a participé au financement des vaccins.
Qui a investi plusieurs, effectivement, plus de 10 milliards d'euros.
Et y compris avec Sanofi, au tout démarrage,
amont,
qui avait créé une petite polémique.
Et notamment Sanofi, mais d'autres aussi. Et que c'est cet instrument que le président de la République souhaitait créer en 2019, pour la nouvelle mandature de la Commission européenne. Et vous voyez, on avait cette préscience que cet outil-là nous manquait au niveau européen. Je rappelais une chose, la Commission européenne, elle n'a pas elle n'a pas la politique de la santé en main. Et c'est le fait de montrer qu'aujourd'hui, on a besoin, tous les 27 pays ensemble, d'avoir cette politique de santé beaucoup plus ambitieuse qu'est-ce qu'elle ne l'était jusque-là.
Alors là, il y a le vaccin AstraZeneca. Hein. Des doses ont commencé à être administrées ce week-end en France, notamment avec on a pu voir notre ministre de la Santé se faire vacciner hier. Quand on voit AstraZeneca qui aussi limite ses livraisons, est-ce que nous, en France, on n'a pas été naïfs face au laboratoire ?
Alors, en revanche, je crois qu'il va falloir accepter qu'un processus d'industrialisation est un processus complexe et qu'on ne passe pas de la dose de laboratoire ou du nombre de productions de doses en laboratoire à une production en milliers ou millions d'unités. Ce qui est en train de se passer, c'est une montée en capacité de production. Et aujourd'hui, il est réel que AstraZeneca a certains sites où ils peinent à atteindre les rendements attendus et à chaque lot de production, ils nous reviennent en disant ça passe moins et nous en sommes en train de récupérer. Hein,
ils nous avaient promis 4,6 millions de doses sur le premier trimestre. Vous pouvez confirmer qu'on aura au moins ces 4,6 millions de doses d'AstraZeneca en France ?
Nous en avons 2,5 millions qui seront livrés au mois de février. Et donc, oui, je suis assez confortable sur le fait qu'on aura 4,6 millions de doses livrées en France en février et en mars.
Le fait que ce vaccin soit réservé aux moins de 65 ans en France, il y a même des pays qui sont plus drastiques, est-ce que ça remet en cause notre politique de vaccination en France ? Est-ce qu'on ne va pas être capable de vacciner le plus grand nombre ? Je rappelle ce chiffre assez fou, Olivier Véran avait dit 70 millions de Français d'ici à l'été. On ne va jamais y arriver, non ?
Alors, pourquoi ? Non, puisque nous sommes au contraire en capacité de respecter le calendrier de vaccination que nous avions donné dès le mois de décembre. Hein, 1 million de personnes vaccinées au mois de janvier, on a fait 50% de plus, 1,5 million. 15 millions de personnes vulnérables, c'est notre priorité, parce qu'aujourd'hui, on sait que les vaccins limitent le développement de formes graves et que ce sont ces formes graves qui, aujourd'hui, embolisent nos hôpitaux. 15 millions, c'est au mois de juin. Et ensuite, la possibilité pour les adultes d'avoir accès au vaccin. S'ils le souhaitent, c'est une possibilité. Nous n'imposons pas la vaccination à la fin de l'été. Ce calendrier, il sera tenu parce que nous avons une fabrication de doses qui vont nous le permettre, même si on aura des aléas, des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles au fil de cette fabrication.
Agnès Pannier-Runacher, vous êtes notre ministre chargée de l'industrie. Vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Émission spéciale vaccin à la fin de cette émission. J'espère que vous aurez, j'en suis quasiment certain, toutes les réponses aux questions que vous vous posez grâce à notre grande témoin du jour, la ministre déléguée à l'industrie en charge des vaccins, Agnès Pannier-Runacher.
Et parmi les moments les plus redoutés hein, par le corps médical quand une personne est atteinte du Covid, c'est le fameux orage cytokinique qui survient au bout de 10 jours, en moyenne, après les premiers symptômes. Hein. Et c'est là que tout peut basculer. C'est à ce moment-là que peut survenir hein, ce syndrome de détresse respiratoire aiguë, parce que le corps en fait est en pleine inflammation. Et une biotech est en train de mettre au point un traitement justement pour éviter ce basculement. Bonjour docteur Philippe Pouletti.
Bonjour.
Vous êtes le président d'Abivax et le directeur général de Truffle Capital. Vous développez donc ce traitement qui se présenterait sous la forme d'une gélule hein, à prendre par voie orale. En tout début de traitement, notamment chez les personnes les plus fragiles, la fin de l'étude est attendue pour la fin du premier trimestre, hein, d'ici un mois de cette année. Pour l'instant, vous avez testé votre molécule avec plus de 1000 patients en Europe, mais aussi au Brésil, au Mexique ou au Pérou. Qu'est-ce qu'il en ressort ?
Alors, il n'y a pas de résultat avant que l'essai clinique soit terminé. C'est un essai clinique très robuste, en double aveugle.
Il y a des petits signaux quand même.
Trop souvent en France et ailleurs, des gens ont annoncé des résultats sur la base de quelques malades qui se sont avérés ensuite non confirmé. Donc la seule chose que je peux vous garantir, c'est qu'Abivax fait un essai clinique avec les meilleures pratiques médicales, effectivement en Europe, au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Et nous saurons d'ici trois mois si l'ABX464 est efficace ou non en Covid-19. Donc on sait que cette molécule est efficace dans d'autres maladies
elle
inflammatoires sévères, c'est-à-dire
dans
la rectocolite hémorragique notamment, est en essai clinique pour la polyarthrite rhumatoïde. Et comme vous l'avez dit, ce qui se passe en Covid-19, cet orage cytokinique, c'est que vous avez un emballement chez certains malades de la réaction inflammatoire qui est favorable à la réaction inflammatoire quand on veut se débarrasser d'une bactérie ou d'une coupure. Mais chez certains malades, pour des raisons inconnues, elle s'emballe. Alors l'ABX464, on sait que cette molécule active un frein naturel de l'inflammation, un micro-ARN. Vous savez que les ARN sont les vedettes en Covid. Et que parallèlement, la molécule promeut une réparation tissulaire. C'est important parce qu'il y a des lésions pulmonaires. Et enfin, elle a un effet antiviral puissant sur le SARS-CoV-2.
Donc toute notre machine immunitaire.
Donc effectivement, elle mobilise, mais de façon sélective, un frein naturel de l'inflammation. Donc c'est pour ça qu'on a décidé en mars dernier de dire... Il faut tester cette molécule. ABX464 a été désigné par le gouvernement priorité nationale de recherche. Mais encore une fois,
vous êtes vous prenez beaucoup de précautions, mais il y a quand même des bons signaux.
Il y a un très bon rationnel scientifique et clinique pour espérer que la molécule soit efficace, mais en aucun cas, je ne vous dis qu'elle le sera. Seul l'essai clinique nous le dira.
Mais il y a un point, docteur Philippe Pouletti, qui est capital, puisqu'on n'arrête pas de parler des vaccins, mais on a presque oublié de chercher les traitements, puisque ça va être aussi capital pour l'avenir de cette maladie. Ce n'est pas parce que tout le monde est vacciné que la maladie va disparaître. Il faut donc absolument des traitements, et c'est votre philosophie, notamment.
Alors, vous avez raison, en tant qu'immunologiste, je dirais vaccinez-vous, bien sûr. Mais on sait que la logistique, on sait que les mutants, on sait que l'attitude anti-vaccin de certains feront qu'il y aura toujours des malades. Donc, vous savez qu'il y a des maladies virales où il n'y a aucun vaccin, mais on arrive à traiter les malades. Le sida, l'hépatite C, etc. Alors, c'est très important d'avoir des médicaments efficaces et effectivement de pouvoir traiter les malades très tôt avant que cette hyperinflammation ne se soit emballée.
Elisabeth, citez les pays où vous faites des tests. Alors, j'ai entendu le Brésil, le Mexique, le Pérou, le Chili. A priori, elle n'a pas dit la France. Pourquoi c'est si compliqué de faire des tests
Alors,
en France?
On fait aussi des essais cliniques en France.
Mais c'est plus compliqué chez nous.
La NSM a donné très vite son accord en ayant travaillé jour et nuit en mai dernier. Mais c'est vrai qu'on a recruté moins de malades en France qu'en Italie, qu'en Espagne.
Mais bien pourquoi sûr, c'est plus compliqué chez nous?
Agnès Pannier-Runacher connaît bien le sujet.
Alors Agnès
Pannier-Runacher... C'est pas nouveau avec le Covid que les essais cliniques en France, on en fait moins qu'en Belgique, qu'en Hollande et bien sûr qu'en Allemagne.
Est-ce que ça peut changer, Agnès Pannier-Runacher?
Ça a changé, ça a déjà parce que ça fait partie des sujets dont on s'est emparé avec le président de la République. Lorsque le président de la République est arrivé, il avait ce sentiment qu'on ne faisait pas assez sur les industries de santé, sur les essais cliniques et sur toute la filière de santé. Et nous avons mis en place un comité stratégique des industries de santé et on a établi un plan d'action avec les chercheurs, avec ceux qui trouvent des médicaments, avec tous les points difficiles qui expliquent qu'on a comme ça divisé par deux notre part de marché. Et dans ces points-là, il y a effectivement la lourdeur administrative de nos processus de validation d'essais cliniques, d'autorisation.
Mais est-ce qu'il faut changer tout ça? Est-ce qu'il faut simplifier tout ça?
Mais ça, c'est en cours. C'est-à-dire
oui,
que nous l'avons fait.
Parfois, on sait ce que ça veut dire en France.
Non, c'est pas que c'est en cours. Je vais vous dire très simplement. Il y a 60 mesures, 80% des mesures ont été faites. Les 20% restantes, elles seront délivrées pour le mois de juillet prochain. Donc, des simplifications sur les autorisations temporaires d'utilisation de molécules, etc. Donc, ça,
un autre exemple. Le docteur Philippe Pouletti disait on a été désigné priorité nationale. Il y a un exemple qui a beaucoup fait parler, c'est Valneva, qui est un petit laboratoire français qui est en passe de trouver un vaccin. En tout cas, ce qu'ils disent, même si là, les dernières informations laissent penser que c'est peut-être pas si près que ça. Mais ils se sont vendus aux Britanniques. C'est les Britanniques qui ont acheté les doses et ils disent c'est parce que nous n'avons pas été soutenus. Est-ce qu'on a raté ou pas assez soutenu des entreprises prometteuses comme ça en France?
Pour être très clair sur le cas particulier de Valneva et après
On pourrait l'élargir, il y en a d'autres, pareil.
Abivax, par exemple, c'est une entreprise qui est soutenue, pour vous donner quelques chiffres, hein, vous avez une aide à Abivax Direct de l'ordre de 20 millions d'euros.
De 36 millions d'euros par BPICG.
Voilà, c'est ça. Une partie pour CHU de Nice, une partie pour la société et une partie pour l'industrialisation. Ça s'est fait au mois de juin. C'est pour vous dire qu'on n'a pas
perdu
de temps.
Bien sûr.
Donc, c'est la même chose qui s'est passée pour Valneva. On a proposé 80% de subventions, c'est le maximum que réglementairement, législativement, nous pouvions faire. Valneva a une particularité, c'est qu'il n'a aucun site de fabrication en France.
En Écosse,
aucun
en l'occurrence,
site,
c'est vrai qu'ils ont un site
ils
de production.
Ils en ont en Écosse, ils en ont en Autriche, ils en ont en Suède. Ils ont fait des demandes en Autriche et en Suède, ils n'ont pas eu 100% de financement. Donc ça, c'est un cas particulier. Et je comprends qu'ils aient choisi l'Écosse parce que entre partir d'un site existant et devoir en plus faire le génie civil, etc., ça prend un peu plus de temps. Maintenant, Valneva, là aussi, il faut quand même remettre les choses au milieu, enfin l'église au milieu du village, c'est un vaccin qui est attendu pour la fin d'année.
Bien sûr, c'est ce que je me suis permis de dire, et qu'en plus, les derniers résultats
sont... Je pense que c'est important
qu'on
se dise qu'au moment où les doses arriveront sur le marché, la France serait théoriquement, aurait reçu 150 millions de doses. C'est pour remettre les choses en perspective en termes de perte de chance.
Docteur Philippe Politi, donc vous êtes le président d'Abivax, si les tests sont positifs de votre molécule, il va se passer quoi? La mise sur marché,
alors,
sur le
si
marché,
les tests
ce sera quand
positif, on n'a pas attendu le résultat des tests pour accélérer l'industrialisation et avec le soutien de BPI. Et il est important qu'on puisse discuter effectivement de précommandes éventuelles avant qu'on ait les résultats de l'essai. Et si les résultats sont positifs, on pourrait espérer une mise sur le marché à la mi 2021, on devrait être capable de produire à cette échéance plusieurs millions de doses parce que c'est une petite molécule facile à produire. Mais si vous me permettez, pour qu'on soit dans une meilleure situation en France dans les années qui viennent, en Covid ou dans d'autres pathologies, c'est
déjà
la biotech.
Il faut bien mettre le masque.
C'est la biotech aujourd'hui qui innove. Ça fait 20 ans, mais la preuve est là. Il faut booster la recherche fondamentale dans une université, dans nos organismes de recherche avec une ANR beaucoup plus puissante.
Ça veut dire très concrètement mettre des milliards d'euros dans les universités, alors, ce que font les Américains.
Oui, mais en distribuant cet argent de manière, je dirais, élitiste. Les meilleurs chercheurs ont le plus d'argent. Deuxièmement, il faut que les essais cliniques puissent être faits dans toute l'Europe avec un seul agrément.
Bah c'est en cours, c'est ce que nous disait madame
avec
la ministre.
Avec un seul agrément.
En France. Après, c'est l'Europe.
L'Europe.
Et ça, je rejoins cet objectif. C'est-à-dire qu'il faut que l'Europe soit un seul ensemble au lieu d'être 27 ensemble et qu'à chaque fois que vous passez, il faut recommencer une procédure.
Et enfin, il faut que nos biotech deviennent des leaders mondiaux. Et il faut stimuler le financement privé, et pas seulement public, des meilleures entreprises.
Et c'est ce que l'on souhaite en tout cas à Abivax et à cette molécule. Merci à vous, docteur Philippe Politi. Vous êtes le président d'Abivax et le directeur général de Truffle Capital.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Émission spéciale pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la production des vaccins et notamment la production en France. Notre grande témoin aujourd'hui, c'est Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie qui est en charge justement de la logistique, des vaccins. Si on parle de la production, 4 sites vont servir à produire en France, les vaccins notamment de Pfizer et de Moderna. Parmi ces sites, il y a une usine de Sanofi qui produira les vaccins Sanofi, mais il y a également Delpharm, Resipharm et d'autres groupe. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que toutes nos capacités de production sont utilisées en France pour produire le maximum de vaccins?
Notre objectif, c'est d'aller plus loin.
Mais comment?
Avec le président de la République, nous avons réuni l'ensemble des laboratoires, des sous-traitants, des intervenants
dans
les chaînes de production pour regarder et pour faire en sorte d'aller plus loin. Comment peut-on aller plus loin? En mobilisant tous les sites de production français pour regarder s'ils peuvent basculer dans la production d'un vaccin. Ça peut être le plus facile pour la partie flaconnage, parce que ça, c'est des étapes qui supposent 3-4 mois pour basculer. Plus difficile, la fabrication du principe actif lui-même. Et là, nous sommes quand même sur des chaînes de production extrêmement délicates. Le moindre équipement fait l'objet d'une homologation. Le moindre lot clinique qui sort de l'usine
fait l'objet
de tests. Mais
vous avez identifié combien de sites qui pourraient...
Et là, c'est 6 à 7-8 mois pour aller jusqu'au
bout
de la production.
Vous avez identifié combien de sites qui pourraient servir à cela, au-delà des 4 que je viens
de
citer?
Nous avons 3 sites qui sont des sous-traitants. Nous avons 3 sites de Sanofi qui produiraient du vaccin. Donc ça fait déjà 6 sites. Et ensuite, nous avons, on va dire, 3-4 sites qui pourraient potentiellement être mobilisés, soit de grands laboratoires pharmaceutiques, soit de laboratoires qui sont pas nécessairement, qui n'ont jamais fait de vaccin, mais qui ont les capacités techniques et les lignes de production. Après, il faut choisir les meilleurs chevaux au plan européen. Parce que
mais pourquoi
que
on les cherche maintenant? On ne pouvait pas les chercher plus tôt?
Mais comment vous croyez qu'il y a trois sites qui basculent? C'est parce qu'on les finance et on les accompagne depuis le mois de
juin. Mais les autres?
Et les autres, nous sommes en train de monter en capacité. Il faut avoir votre preuve de concept avant de disséminer la production de vaccins. Ça aurait été irréaliste de faire démarrer 10 sites en même temps sur un vaccin dont on n'aurait pas connu la capacité à être efficace.
Est-ce que l'on pourrait, puisqu'il va falloir produire énormément de vaccins, est-ce que l'on pourrait construire de nouvelles usines?
C'est un des sujets que nous regardons de manière très pragmatique sur les ARN messagers. Parce que vous avez eu beaucoup de gens qui disaient « mais il suffit de réquisitionner, on va produire du vaccin ». Sauf qu'en France, il n'y a aucun site industriel pour l'ARN messager sur la partie principe actif. Donc, on peut réquisitionner ce qu'on veut, on ne saurait pas produire. Et là, on voit qu'on a un besoin. On a un besoin pour la Covid, mais en fait, ce que va faire cette crise, c'est qu'elle montre aussi l'efficacité de ce type d'instrument vaccinal, de cette technologie, et donc ça servira pour la suite. On est en train d'accélérer la recherche et les résultats en matière vaccinale, et donc on va avoir besoin
donc
de sites.
Donc vous allez peut-être rencontrer
de nouveau. Et donc nous sommes en train de regarder des opportunités de construction de sites sur l'ARN messager, qui pourrait servir pour le Covid, mais qui pourrait servir pour plein d'autres vaccins.
Alors parlons des vaccins français. Est-ce qu'il y a bien un raté? Nous sommes le seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas avoir de vaccin aujourd'hui.
Encore.
A priori, effectivement, il est tout à fait possible que nous en ayons un à la fin de l'année. Puis si on veut regarder le verre à moitié plein, Sanofi sera peut-être le seul grand laboratoire au monde à avoir trouvé un vaccin tout seul sans avoir eu besoin de l'aide de quelqu'un. Il n'en reste pas moins que même si on regarde le verre à moitié plein, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on a raté?
Je crois qu'on a exprimé les enjeux de la recherche. Les enjeux de la recherche, c'est d'être capable, d'une part, de plus investir dans la recherche. C'est ce que fait la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche qui vient d'être votée, mais elle vient d'être votée. Et c'est également d'aménager des ponts plus forts entre la recherche fondamentale et la recherche privée. Pendant des années, il a été de bon ton de taper sur les laboratoires pharmaceutiques. Mais quand c'est eux qui trouvent, à un moment, il faut regarder aussi ça comme étant la réalité. Et donc, notre enjeu, c'est effectivement de réinvestir plus pleinement ces domaines-là. Après, effectivement, vous avez raison de souligner qu'il faut aussi regarder le verre à moitié plein. Sanofi fait partie des plus grands réalisateurs, enfin fabricants de vaccins. C'est le seul qui a pris le risque de fabriquer un vaccin. Et c'est le seul, peut-être, qui arrivera d'ici 2, 3, 4
mois. Ils ont essayé
aussi
avec une petite biotech, mais ils n'y sont pas arrivés.
2, 3, 4 mois avec un vaccin. Leur vaccin ARN messager, il est pour plus tard. Et c'est pour répondre à d'autres usages.
Beaucoup disent que la politique de la France a été celle de médicaments à prix bas et donc une politique moins rémunérateur pour les grands laboratoires ou les biotech qui sont donc partis ailleurs. Est-ce que vous aussi, vous constatez cela et est-ce qu'on va faire en sorte de changer les choses?
Je peux vous dire, parce que moi j'ai travaillé à l'assistance publique Hôpitaux de Paris il y a 17 ans, que nous nous battions pour le financement des molécules innovantes et que c'était la variable d'ajustement déjà à l'époque, et ça fait des années que ça dure, du budget de la santé. Alors, une des variables d'ajustement, mais celle sur laquelle on avait le moins de freins pour récupérer de l'argent.
Ça veut donc
l'argent.
Dire qu'il faut, il va falloir accepter de payer nos médicaments plus cher demain pour pouvoir se redonner des moyens de financer notre recherche.
Je crois qu'il faut accepter surtout de financer l'innovation.
Mais est-ce que ça passe par une politique du médicament plus cher ?
De financer au laboratoire le prix de cette innovation. Je rappelle que dans le système français, c'est la sécurité sociale qui prend l'essentiel. Donc lorsqu'on parle du prix du médicament, ce n'est pas le prix que paye le patient, c'est le prix que paye la sécurité sociale qui a pendant des années extrêmement bien négocié ses vaccins, ses médicaments, mais peut-être l'a-t-elle fait au prix d'une moindre innovation. Et c'est comme ça qu'on a vu apparaître des pénuries de médicaments ces dernières années. Et c'est un des enjeux qu'on doit aussi aborder sur d'autres pathologies.
Elisabeth le disait tout à l'heure, Olivier Véran, votre collègue de la santé, a été vacciné. Alors certes, il est médecin et il pouvait y avoir le droit totalement. C'est pour quand, vous?
Alors moi, j'ai très exactement 47 ans et je n'ai pas de facteur de comorbidité. Donc je pense que je fais partie du wagon de l'été des Français qui auront accès à la vaccination. Et je le ferai parce que je suis à peu près vaccinée contre tout. Donc ça contribuera à mon carnet de vaccination.
Vous choisirez lequel?
Pardon?
Vous choisirez lequel, si vous pouvez choisir?
Je pense que ça sera en fonction de ce qui arrivera. Après, si ça peut être le Sanofi, ça sera une petite fierté.
Oh bah vous allez attendre la fin de l'année ou le début de l'année prochaine.
Non, alors Sanofi, ça devrait arriver plus tôt. Hein, là aussi.
Ah bon, vous avez donc une information en la matière?
Non, mais ils ont tout
eux-mêmes ont dit que c'était au dernier trimestre de l'année.
Septembre-octobre.
Dernier trimestre.
Et pas décembre.
Ah donc, d'accord.
Donc septembre-octobre pour Sanofi. Alors chaque jour dans la France Bouge, Agnès Pannier-Runacher, on se pose et on découvre l'histoire d'une marque ou d'un produit français. Aujourd'hui, on va parler d'un groupe familial qui est à la base spécialisé dans la construction mécanique, sauf que la crise leur a donné des idées. Eux aussi font partie de ces entreprises qui se sont réinventées. Depuis avril 2020, ils se sont mis à fabriquer des masques pour faire face à la concurrence asiatique.
Oui, ça s'appelle Franprotech. Je vais essayer de le dire au moins. Voilà, je vais essayer de le dire au moins correctement une fois depuis le début de l'émission. C'est la saga du jour, faite aujourd'hui par Quentin Paille.
Europe 1, la France bouge, la saga.
Franprotech est une jeune société née de la crise du Covid. Tout commence il y a à peine un an, 10 mois très exactement, en avril 2020, à Roncq, dans la banlieue de Tourcoing. Paul Winter est à la tête d'un groupe de construction mécanique et mi-mars, ses usines sont à l'arrêt, le pays est confiné et ses salariés sont chez eux. Comment dès lors se réinventer et continuer à travailler? Celui qui en parle le mieux, c'est son fils, Pierre Winter, 25 ans, le jeune directeur de Franprotech.
C'est que pendant le confinement, on était un peu agacés, surtout mon père, on était agacés d'entendre à longueur de journée qu'un pays comme la France où on fabrique des fusées et des avions, on n'était pas capable de subvenir aux besoins de la population française et de nos soignants. Et ayant un pied dans l'industrie où mon père, depuis plus de 40 ans, se bat contre la concurrence déloyale des pays asiatiques, s'est dit « Allez, maintenant, ça suffit, on se lance ».
L'idée de départ des Winter père et fils, c'était d'être un petit producteur de masques et sortir des usines entre 40 et 50 millions de masques par an. Mais pour perdurer, il faut une force de frappe plus importante. Alors ils investissent 6 millions d'euros à ce jour, avec une idée en tête, produire français.
Nous, ce qu'on souhaitait, c'était apporter une réponse très rapide. Donc la stratégie qu'on a adoptée, c'était des machines chinoises, uniquement pour une question de délai, puisque c'était les seuls à pouvoir subvenir à nos besoins dans des délais de 3 à 4 semaines. Et dans le même temps, nous étions partis sur un achat sur une ligne à très haute cadence, qui est quelque chose de tout nouveau, puisque le fabricant italien, c'est le seul à proposer dans le monde une machine aussi rapide qui nous permet de produire vraiment à très haute cadence. Une machine de conception asiatique, on est de l'ordre de 30 à 40 masques à la minute. Une machine italienne, c'est 600 masques à la minute.
Aujourd'hui, l'entreprise de 63 salariés a vendu plus de 65 millions de masques, quasiment un par français, et sa capacité de production est de 300 millions de masques chirurgicaux par an. La stratégie de l'entreprise est simple, produire beaucoup pour vendre pas cher et faire concurrence aux pays asiatiques.
Alors l'ambition, c'est vraiment de s'inscrire dans la durée, et c'est vraiment, ça fait partie intégrante de notre stratégie depuis le départ, et de faire une concurrence frontale aux importateurs de masques en France, puisque c'est eux qui inondent le marché de masques asiatiques. Et de fait, c'est eux qui modifient le marché et qui rendent les fabricants français et européens moins compétitifs.
Franprotech veut donc perdurer dans le temps et pour cela, en plus des masques chirurgicaux, elle mise aussi sur les masques FFP2 et devrait recevoir l'homologation dans quelques semaines. Parfois, les crises ont donc du bon, car en plus d'être rentable, l'entreprise embauche, 30 postes sont à pourvoir.
C'était la saga du jour racontée par Quentin Paillet de l'équipe de La France Bouge. On est toujours avec Agnès Pannier-Runacher, la ministre en charge de l'industrie et qui s'occupe de la politique de la logistique, notamment des vaccins. Là, on entendait les masques, ça a été une énorme polémique. Est-ce que la France doit reproduire massivement des masques dans les années à venir? Parce qu'on sait qu'on en aura besoin.
Même en ce moment.
Alors aujourd'hui, on en produit plus de 100 millions par semaine. On en produisait l'année dernière 3,5 millions par semaine. Donc on a multiplié par 30 notre production de masques. Et ça ne s'est pas fait par l'opération du Saint-Esprit.
Chirurgicaux.
Ça a été chirurgicaux et FFP2. Les deux. Un quart FFP2, trois quarts chirurgicaux. Et ça s'est fait parce que nous avons accompagné surtout le principal goulet d'étranglement. Il y avait les machines, mais pas tant que ça, puisqu'il a sourcé en Chine, par exemple. Mais c'est surtout la matière première et nous fabriquons de la matière première.
Eh bien, parfait.
Merci en tout cas Agnès Pannier-Runacher. Vous restez quand même avec nous jusqu'à 14h parce que là, c'est le moment, on va vous demander de mettre une casquette de coach parce qu'on va vous demander votre avis sur un projet d'entreprise et vous êtes aussi en charge des dossiers des entreprises en difficulté. Mais là, on va vous demander votre avis sur une entreprise naissante.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Allez, c'est l'heure des trophées Europe 1. La France bouge et on est toujours avec notre témoin du jour, Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'Industrie.
Et chaque jour, on voit des entrepreneurs qui osent se lancer comme vous, Margot Rallier. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez 23 ans, vous êtes de Nantes, hein, la même ville qu'Emmanuel.
Et
depuis le mois de mai, vous êtes la cofondatrice de Bene Nota. C'est du textile pour la salle de bain. C'est une histoire d'entreprise et nous, ce qui nous a plu, c'est parce que vous avez entrepris avec votre grand-mère qui est là en train de filmer en régie. On vous laisse nous raconter la suite. C'est parti, vous avez une minute pour le pitch.
Donc Bene Nota, c'est avant tout une histoire entre grand-mère et petite fille. Nous créons du linge de bain français et écologique en associant le savoir-faire de nos aînés et le besoin de la femme moderne d'aujourd'hui. Donc Bene Nota, c'est des concepts pratiques, des designs élégants et une matière écologique qui est la fibre de bambou. Notre ambition, c'est vraiment d'accompagner les femmes au quotidien dans leur salle de bain pour créer des vrais moments de douceur et des moments à soi. La solidarité, pour nous, c'est très important. Donc ça se voit d'abord par notre histoire avec ma grand-mère, également par notre volonté d'une fabrication française 100% faite à côté de Nantes. On a commencé dans le salon de mamie il y a quelques temps. Maintenant, nous collaborons avec 3 ateliers de réinsertion par le travail qui nous aident dans l'élaboration de tous nos produits. D'ailleurs, vous pouvez retrouver nos mini-gants démaquillants lavables à 16,90€ le lot de 3 sur notre site internet et nos serviettes à cheveux également.
Eh bien, bravo. Mais et je ne vous dis pas ça que parce que vous avez pensé à donner le prix, ce que tout le monde oublie quand on fait le pitch. Donc, bravo à vous, Margot.
Vous avez dit des serviettes à cheveux ?
Oui, c'est on fait quoi, des serviettes à cheveux bah, pour aider en fait, à sécher les cheveux à la sortie de la douche.
Ah, ça évite la grande serviette qu'on enroule et qui
exactement,
tombe sur le visage.
Et qui est super lourde.
Ça sent le vécu, cette histoire.
Oui, c'est vrai. Merci en tout cas. Merci pour votre pitch, Margot. Je vous présente Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la CCI. Bonjour, Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Margot, bonjour Emmanuel.
Bonjour Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de Bene Nota ?
Bah déjà, 3 forces. Votre histoire absolument géniale avec votre mamie et ces histoires de beauté qui vous rassemblent. Vos produits qui sont effectivement très jolis par rapport à ce qu'on trouve sur le marché et qui ont l'air hyper doux et qu'on a vraiment envie d'essayer ou d'offrir. Et puis les prix,
je ils sont corrects. Je confirme, c'est très doux. Hein.
Ah oui, ça a l'air en tout cas. Et les prix qui sont corrects vu le Made in France. Les points améliorés, quand on démarre une boîte, il faut choisir un angle et le creuser à fond. Votre histoire doit devenir votre marque de fabrique, comme ont pu le faire par exemple Michel Augustin ou le Cible français. N'hésitez pas à créer un univers autour des routines de beauté entre mamie et sa petite fille. Racontez des histoires sur vos produits. Ce sont ces histoires et ces émotions partagées qu'on aura envie de raconter à nos amis quand on leur parlera de notre dernier achat et qu'elles auront envie à leur tour d'essayer de raconter.
Qu'est-ce que vous en pensez alors de ces conseils de Nathalie
Carré ? C'est vachement bien de raconter, de faire des tutos, la routine avec votre mamie, je trouve ça...
Ce sont des très bons conseils et d'ailleurs ça va bientôt arriver parce que dimanche c'est la Saint-Valentin. Mamie va partager donc ses petites anecdotes, ses astuces beauté, voilà c'est...
Parce que c'est mamie qui est chef de production.
Chef de production, exactement.
Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'industrie. Qu'est-ce que vous venez d'écouter le pitch de Margot Rallier pour Bene Nota ? Quel regard portez-vous là-dessus ?
D'abord, je trouve fabuleux d'avoir des générations de jeunes gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui n'ont peur de rien et qui se lancent en adoptant immédiatement les codes de la cohésion sociale, du fabriqué en France et de l'empreinte écologique. On est en train de réinventer, et vous avez une chance extraordinaire, votre génération, vous allez réinventer la manière de produire. Mais c'est très difficile. Et c'est vraiment un très beau challenge et moi je vous souhaite de le réussir absolument. Je pense que la France a besoin de positif, la France a besoin de talents comme les vôtres pour aller jusqu'au bout. Puis je suis allée visiter votre site, et effectivement je confirme qu'il est très propre, je dirais.
Merci, et donc,
courage pour votre développement.
Alors Margot, justement, vous avez besoin de quoi ? Est-ce que vous avez besoin de pas mal de choses ? Un peu de sous ? Des gens qui vous feraient confiance ?
Allez, alors combien ? Vous avez besoin de combien déjà ?
Alors, on a besoin de visibilité et de nouveaux partenaires commerciaux à l'échelle nationale. Donc, instituts de beauté, coiffeurs, concept store, boutiques à cadeaux, voilà.
C'est... Ok, et vous avez besoin de fonds ?
Il faut aller faire une levée de fonds aussi, je crois.
Alors, on fera sûrement des levées de fonds, mais peut-être si un jour, on a des produits plus importants à développer.
Oui, parce que vous voulez aller sur le peignoir et la trousse de toilette.
Exactement, ou les chaussons, enfin tout ce qui est autour de la salle de bain, textile.
Ça s'appelle Bene Nota. Merci à vous, Margot Rallier, d'être venue nous présenter votre entreprise hein, en collaboration avec votre grand-mère. Donnez-nous vos nouvelles. On aime bien voir des nouvelles des personnes qui sont venues, qui ont démarré ici à La France Bouge.
Merci.
Et on vous retrouve demain, Nathalie Carré, si vous aussi vous voulez venir présenter votre projet. Une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous pourrez comme ça peut-être faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1, La France Bouge.
Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'industrie. Suite et fin de notre émission, vous restez encore quelques minutes avec nous.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Ça passe chaque jour trop vite. Déjà, la dernière partie de votre émission La France bouge, toujours en direct sur Europe 1 jusqu'à 14h, avec notre grand témoin du jour, Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre déléguée en charge de l'industrie.
Et c'est toute la semaine sur Europe 1, on vient en aide aux jeunes. Ici, à La France bouge, on vous propose des offres d'emploi, retrouvées sur notre carte interactive sur europe1.fr, mais pas seulement. Toutes les missions de l'antenne sont mobilisées cette semaine pour aider les jeunes psychologiquement, professionnellement, financièrement. On vous aide à joindre les deux bouts. On ne vous laisse pas tomber. Postulez, c'est parti.
Bonjour Dimitri Farber.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Tiller. Tiller existe depuis 6 ans. Vous éditez des logiciels pour les commerçants comme des solutions pour les caisses de paiement. Vous avez un tout petit peu plus de 100 salariés à ce jour et vous voulez passer à 150 salariés. Donc on va être concret. Il y a 40 postes ouverts pour cette année. Absolument. Qu'est-ce que vous recherchez de façon là aussi très concrète?
Alors très concrètement, effectivement, on cherche à augmenter d'à peu près 50% nos équipes à Paris, Barcelone ou Milan. C'est où on a des bureaux un peu partout en Europe. Donc, on recherche beaucoup de commerciaux, donc des commerciaux sans forcément d'expérience, sans forcément d'études ou de CV. On ne regarde pas ça, on regarde vraiment la motivation.
C'est-à-dire que là, un jeune
personne,
qui nous écoute, ouais, qui n'a pas fait d'études commerciales, mais qui a de l'envie, qui est sympa et qui est volontaire, il peut postuler.
Bien sûr, sur ce type de poste, on va vraiment regarder la motivation de la personne, les réflexes, les gestes.
Mais il y a une petite culture d'entreprise à avoir quand on travaille chez vous. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui fait que ça va accrocher?
Alors, il faut aimer un peu l'esprit start-up, c'est-à-dire qu'il faut aimer pouvoir bosser, pouvoir y aller, ne pas avoir peur de l'échec, ne pas avoir peur de tester. Mais sinon, vraiment, on apprend toutes les bases, on forme les jeunes qui arrivent chez nous, on les forme de A à Z pour ce métier de commercial.
Quand on disait là avec Elisabeth que vous avez 40 postes, ce sont des postes en CDI?
Alors effectivement, on recrute quelques alternants, mais sinon c'est à 95% des CDI.
Et ce qui est important, c'est que c'est des postes là, maintenant, on ne parle pas comme ça en l'air.
C'est des postes hier. Non, donc on cherche vraiment en flux constant.
Mais est-ce que ça veut dire que vous avez du mal, parce que votre blague elle est intéressante, est-ce que ça veut dire que vous avez du mal, paradoxalement, au vu de la situation, à recruter?
Alors oui, sur des profils plus techniques, donc notamment tout ce qui est R&D, etc. Sur des profils commerciaux, non. Il y a on reçoit beaucoup de CV, on reçoit plusieurs centaines de CV par semaine. Néanmoins, voilà, on recrute beaucoup, on cherche aussi des bonnes personnes pour les faire passer entretien, pour les former. Donc on est toujours preneur de plus.
Et pour ça, il faut aller donc sur votre site, je vais l'appeler T-I-2-L-E-R-S, parce que ça fait, c'est tillersystem.com.
On s'est perdu là.
Voilà, s'est perdu. Ouais. Vous le faites mieux que moi, allez-y, Elisabeth.
Tiller au pluriel.com, c'est ça?
Tillersystem, là au pluriel.com, et on va dans l'onglet Rejoins le gang.
Et puis, dans Rejoins le gang, c'est à Paris, mais aussi des postes à pouvoir à Barcelone et à Milan. Hein. Ça peut aussi donner des envies pour tous nos jeunes. Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'industrie. Alors là, en ce moment, on parle de cette crise du Covid, de ces usines qu'il faut peut-être produire, dans lesquelles il faut peut-être produire des vaccins. Est-ce que dans tout ça, il y a des créations d'emplois? Est-ce qu'il y a des belles nouvelles?
Bien sûr, on recrute des créations d'emplois. Et moi, je suis frappée parce que nous sommes en train de déployer le plan de relance. J'ai 1000 entreprises accompagnées aujourd'hui avec des projets de modernisation, des projets de relocalisation de production sur l'ensemble du territoire national. Et leur première difficulté, c'est le recrutement. Et je trouve que ce qui est très positif dans ce témoignage d'un recruteur, c'est de dire « mais moi, je cherche des personnes qui ont un bon esprit, une motivation, qui voudront avancer dans l'entreprise ». Et je me chargerai de les former. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir cette ouverture. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas aller vers l'industrie parce qu'ils viennent du service, parce qu'ils ont fait des métiers.
Il faut pas.
Exactement. Alors que ce sont des métiers passion, c'est des métiers qui payent plutôt bien, il faut aussi le dire. C'est des métiers où vous avez des compétences durables et vous n'avez pas de difficulté à vous faire recruter en réalité derrière.
Toute dernière petite question. Le gouvernement appelle à toujours plus de télétravail. C'est appliqué, 100% de votre cabinet est en télétravail?
Alors, mon cabinet est en partie en télétravail. Donc, vous avez une partie des équipes à 80% en télétravail. On vient de récupérer, il y a fin de semaine dernière, les normes. Et une partie qui est à 50% en télétravail parce que nous avons aussi, pour le commando vaccin, par exemple, là, malheureusement, c'est tout le monde sur le pont,
d'être en
permanence. Et je ne peux pas leur demander de se mettre à l'abri. On doit travailler pour les Français.
Merci Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'industrie. Merci d'avoir été dans La France bouge.
Et on se retrouve
retrouve demain, Elisabeth ?
Eh bien, on se retrouve demain. Demain, émission spéciale jeunes. Ben oui, parce que c'est la semaine où on soutient les jeunes sur Europe 1. Demain aussi, plein d'offres d'emploi pour voir. Soyez au rendez-vous.
Il y a 600 offres d'emploi demain sur Europe 1 dans la France. Vous soyez au rendez-vous.
À demain. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.